Rebonjour. Un peu de musique, ça fait du bien avant de commencer. Pourquoi je me suis permis de vous en diffuser un petit morceau. Alors, cet après-midi, je commencerai en disant que vous avez sûrement remarqué que le plan que j'essaie de suivre tout au long de cette journée, c'est un plan trinitaire. Alors évidemment, ça ne peut pas surprendre les membres ou amis de la famille de la Sainte Trinité. À l'affirmation de Thérèse d'Avila, « Je veux voir Dieu », relayée, comme on l'a dit ce matin, par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, voici que le Seigneur lui-même répond au début de l'évangile de Saint Jean, en disant à ses tout premiers disciples, Jean 1, 39, « Venez et voyez ». Alors Sainte Thérèse complétait sa phrase « Je veux voir Dieu » en ajoutant « Et pour le voir, il faut mourir ». C'est un peu ce qu'on disait ce matin à propos du texte de la lutte de Jacob avec l'ange. Néanmoins, elle-même, Thérèse, dans le premier chapitre des septièmes demeures, elle atteste que le terme de la vie contemplative, eh bien, c'est bien une communion très profonde et très intime avec la Sainte Trinité. Je cite un peu longuement ce passage du château intérieur, mais je trouve qu'il illustre parfaitement le point de vue de Thérèse et le point de vue que finalement on va retrouver au terme du parcours. Une fois qu'elle est introduite dans cette demeure, donc la mystique elle-même, les trois personnes de la très sainte Trinité, dans une vision intellectuelle, se découvrent à elle par une certaine représentation de la vérité et au milieu d'un embrasement qui, semblable à une nuée resplendissante, vient droit à son esprit. Les trois divines personnes se montrent distinctes et par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme connaît d'une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même et seule substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue. Et cependant, l'on ne voit rien, ni des yeux du cœur, du corps, ni des yeux de l'âme, parce que ce n'est pas ici une vision imaginaire. Alors, les personnes divines se communiquent toutes trois à l'âme. Elles lui parlent, elles lui découvrent le sens de ce passage de l'Évangile où notre Seigneur annonce qu'il viendra avec le Père et l'Esprit Saint habiter dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. Fin de citation du château intérieur. Septième demeure. Ce que décrit Thérèse, c'est la préparation à cet événement majeur qu'est le mariage spirituel. Dans la même page, la sainte a prévenu qu'il en va maintenant, je cite, « tout autrement que dans les ravissements et l'oraison d'union, où déjà il l'unissait à lui d'une certaine manière. » Et elle poursuit ainsi, « l'âme alors ne se sentait pas appelée à entrer en son centre avec cette force qui l'y invite dans cette septième demeure. Elle n'était attirée qu'en sa partie supérieure. Au reste, que ce soit d'une façon ou d'une autre, cela importe peu. Toujours est-il que jusqu'ici, quand le Seigneur unissait l'âme à lui, c'était en la rendant aveugle et muette, comme saint Paul au moment de sa conversion. Il lui ôtait ainsi le moyen de savoir quelle était la faveur dont elle jouissait et comment elle en jouissait. Les immenses délices dont l'âme se sentait alors inondée venaient de ce qu'elle se voyait près de son Dieu. Mais, au moment même où elle se trouvait unie à lui, elle n'avait plus aucune connaissance. Les puissances étaient entièrement perdues. » Fin de citation cette fois. L'oraison d'union est donc déjà une immense grâce. Celle dont saint Paul, selon Thérèse, a été gratifié sur le chemin de Damas. Mais le mariage spirituel a bien au-delà encore. Alors on peut se poser la question, combien de personnes dans l'histoire de l'Église en ont-elles bénéficié de cette expérience? Difficile de le dire, à moins que, comme Sainte Catherine de Sienne ou la bienheureuse Angèle de Foligno, elles en témoignent elles-mêmes. Il est certain pourtant qu'au fil des siècles, plusieurs carmélites, à la suite de Thérèse, et certainement d'autres religieuses ou d'autres contemplatives ou contemplatifs, ont connu l'expérience. Par exemple, au début du XXe siècle, Élisabeth de la Trinité, pour laquelle les trois personnes sont, dit-elle, sa véritable demeure. On connaît les prières de Sainte Élisabeth de la Trinité, j'en cite deux ou trois. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était déjà dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Ou encore, ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi comme je m'ensevelisse en vous, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Ou encore, pour conclure à propos d'Élisabeth, la Trinité, voilà notre demeure, notre chez-nous, la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir. C'est dans cette perspective que nous abordons les deux dernières parties annoncées ce matin. C'est l'Esprit Saint, partie 3, donc première partie de cet après-midi. C'est l'Esprit Saint qui conduit tout au long l'expérience mystique. Partie 4, donc deuxième partie de cet après-midi, l'union intime avec le Christ, conduite par l'Esprit Saint, fait retentir au cœur de la personne mystique l'appel du Père. Donc d'abord, premier point, ce sera le plus long, le second sera plus court, sous la conduite de l'Esprit Saint. Première question que l'on peut se poser dans cette partie, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'expérience mystique? Alors reprenant la question qui était posée dans la conclusion de ce matin, le Père Stolz oppose nettement ce qu'il appelle la théologie pré-augustinienne de la vie mystique ou contemplative, telle qu'elle a été analysée, tout particulièrement par le pape Saint Grégoire le Grand, à celle qui sera développée par l'école thomiste et surtout plus tard par les mystiques carmélitains. Dans un chapitre intitulé précisément « L'expérience mystique », c'est le chapitre 9 de son livre, Stolz tente de pénétrer l'idée de l'état mystique d'après la théologie des anciens. Mais il s'attend, dit-il, à aboutir au terme de sa recherche à une conception différente de celle des théoriciens modernes de la mystique. Et il poursuit. Pour les anciens, rien ne prouve que la grâce mystique, qui n'est qu'un développement de la justification commune, soit liée à un état psychique particulier. On ne conteste pas que ces états soient possibles et qu'ils surviennent parfois, mais il peut y avoir un degré d'expérience mystique qui soit sans aucune relation nécessaire avec l'un ou l'autre de ces états. L'idée de la naissance de Dieu dans l'âme, que développent beaucoup les théologiens de cette première période, nous explique comment la mystique est le simple développement de la grâce commune. Le sacrement du baptême, dont on a déjà bien parlé, donne à l'enfant ou à l'adulte la vie de Dieu. Vie qui s'épanouit dans la naissance du Logos, conférée par lui. Mais le processus ne s'arrête pas là. En effet, comme le dit l'épître à Diognète, ce texte magnifique des débuts de l'Église, je cite, « Le Logos naît toujours à nouveau dans le cœur des saints. » Et il y a alors une croissance dans la sanctification ou dans la divinisation, comme on voudra, que saint Grégoire de Nice, par exemple, comprend comme étant la naissance parfaite du Logos dans le fidèle. Citation de Grégoire de Nice dans le commentaire sur le Cantique des Cantiques. L'enfant Jésus qui est né croit de diverses manières en ceux qui l'ont reçu, en sagesse, en âge et en grâce. Il n'est pas le même dans tous, mais, suivant la mesure de celui en qui il se trouve, en tant que celui qui le reçoit n'est capable, il se manifeste en lui, soit comme un enfant, soit comme un adolescent en pleine croissance, soit comme un homme fait. » Fin de citation. La même conviction se retrouve chez d'autres pères de l'Église, tels Maxime le Confesseur. Cette doctrine de la naissance du Logos dans le cœur des fidèles permet de comprendre, dit Stolz, pourquoi Marie, la mère de Jésus, est l'image idéale de chaque chrétien. Saint Ambroise, par exemple, affirme ainsi que les fidèles, parce qu'ils ont eux aussi entendu et cru, sont devenus à leur tour des mères du Christ. Voici ce que dit saint Ambroise dans son commentaire de l'évangile de Luc. « Chaque âme qui croit, conçoit et enfante le Verbe de Dieu. D'après la chair, il y a une mère du Christ, mais selon la foi, le Christ est le fruit de nous tous. » Fin de citation. Dans cette optique, la vie mystique est bien conçue comme le développement harmonieux de la grâce baptismale dans le fidèle. À ses débuts, poursuit alors le père Stolz, et lors de sa première croissance, la vie divine, la naissance du Logos, quoique essentiellement surnaturelle, n'est pas liée à un état psychologique particulier, différent de l'activité psychique habituelle. Et c'est donc seulement beaucoup plus tard, disons à partir du XIIIe siècle, avec le développement de la théologie thomiste, mais encore avec des nuances, et plus encore à partir du XVIe, lors de la réforme du Carmel, que la naissance parfaite du Logos, expression de l'état mystique, fut jugée expérience extraordinaire de l'âme. Des expériences de pieuses mystiques, par exemple sainte Brigitte, leur permettaient, je cite les révélations de sainte Brigitte, de voir la grâce s'écoulant dans leur âme, incorporée en elle sous forme d'un enfant. Ceci surprenait par rapport à l'idée que l'on se faisait précédemment de la naissance du Logos dans le fidèle. Le père Stolz estime en définitive que pour déterminer la nature de la contemplation mystique, il est important de noter que la racine de cette connaissance approfondie dépasse la sphère psychologique. Il préfère qualifier cette expérience mystique du mot paradoxal d'expérience transpsychologique. Néanmoins, il juge que cela ne signifie pas que l'expérience mystique se déroule totalement au-delà de la sphère psychologique. Autrement dit, l'expérience mystique a un retentissement psychique qui sera plus ou moins notable, suivant le tempérament de chacun. Mais le père bénédictin martèle l'idée que on ne doit pas voir dans ces phénomènes psychiques l'essence de la vie mystique. Il disait que c'était une sorte de refrain, je dis ce matin, et c'est ça. Donc, pas plus qu'on ne peut prétendre que sans eux, une expérience mystique soit inimaginable. Pour être plus précis, il faut remarquer encore que ces particularités psychiques ne peuvent se rencontrer dans le contexte d'autres religions, voire de la philosophie, au moins jusqu'à un certain degré, dit Stolz. Mais les ressemblances apparentes n'empêchent pas que la substance propre de l'expérience mystique, tout comme la foi surnaturelle elle-même, ne peut se trouver que dans le christianisme. Finalement, l'essentiel de cet état demeure ineffable et inexplicable. Citation. Toutes les tentatives devront finalement s'en remettre à l'aveu de saint Paul, que ce sont là paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Il faut donc en revenir à l'affirmation ancienne, selon laquelle la vie mystique est la fin normale de la perfection chrétienne. Le fidèle, qui ne devient pas un mystique, devra acquérir dans l'autre vie au purgatoire, ce que le mystique aura déjà, ou la mystique, aura déjà conquis durant sa vie mortelle, n'en eût-il d'ailleurs éprouvé nulle particularité psychique. Alors, petite remarque, si on veut comprendre à quel point nos contemporains, l'homme du XXIe siècle, voire le paroissien, lambda parfois, est loin d'une pareille perspective, il suffit de constater à quel point le film récent dont vous avez peut-être entendu parler, Entre terre et ciel, réalisé par le Polonais Michel Kondrat, qui est sorti dans les salles le 2 novembre, avec une durée de 96 minutes, ce film qui parle abondamment du jugement particulier du purgatoire, avec de longs développements consacrés au Padre Pio, à Sœur Faustine Kowalska, ou à la mission particulière du sanctuaire Notre-Dame de Montlignon, eh bien ce film suscite beaucoup l'hostilité ou la raillerie. Deuxième point dans cette première partie de l'après-midi, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans l'expérience mystique, vertus et dons de l'Esprit. Le rôle des dons de l'Esprit est évidemment capital dans la mystique. C'est lui, l'Esprit-Saint, qui nous ouvre au jour de la résurrection le paradis qui jusque-là était fermé. Il est le principe de l'expérience mystique ineffable. Origène l'affirme avec force. Citons Origène dans son ouvrage « Des principes ». Il nous enseigne, donc l'Esprit-Saint, nous enseigne plus que ce que nous pouvons énoncer par des paroles. Il nous enseigne l'ineffable qu'un homme ne peut pas dire, c'est-à-dire ce que des paroles humaines ne peuvent pas exprimer. Fin de citation. Déjà, nous le savons, toute la prière chrétienne est inspirée par l'Esprit. Saint Paul lui-même le dit dans le verset 26 du chapitre 8 des Romains, « Car nous ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements inénarrables. » Incidemment, je rappelle pour ceux d'entre nous qui ont une excellente mémoire que nous avions longuement développé ce sujet lors de la dernière retraite de la famille de la Sainte Trinité qui s'est tenue à Anschalt, je pense qu'il y a maintenant beaucoup d'années. Alors en suivant toujours l'argumentation du Père Stolz, cette fois dans son chapitre 10 intitulé « La plénitude de l'Esprit », on va examiner brièvement la doctrine thomiste concernant ces dons qui, je cite, « tout en ayant comme fondement beaucoup d'éléments traditionnels, laisse souvent au lecteur moderne une impression de subjectif et d'indémontrable », dit le Père Stolz. Saint Thomas l'a fait entrer dans son traité des vertus surnaturelles, comme une sorte de complément. Les dons sont dans sa pensée des grâces différentes, des vertus, mais ils sont aussi surnaturels que les vertus et permanents. Immanant de la grâce sanctifiante, les vertus, quant à elles, au premier chef, et au premier chef les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, ces vertus nous rendent capables de produire des actes ayant une valeur de vie divine et méritoire pour notre fin surnaturelle. Néanmoins, elles contiennent encore une certaine imperfection, dans la mesure où elles sont reçues dans les facultés humaines. Leur action ne se déploie pas encore exclusivement suivant une norme divine. Les dons font disparaître cette imperfection. Par eux, l'homme va devenir docile aux inspirations de l'Esprit-Saint. Comme le remarque le père Garrigou-Lagrange, dont on a déjà parlé, et je le cite, dans son ouvrage « Perfection chrétienne et contemplation mystique », avec les seules vertus, même surnaturelles, l'homme est comme un apprenti qui connaît à peu près ce qu'il faut faire, mais qui n'a pas la manière pour le faire comme il convient. Il faut donc que le maître qui le forme vienne de temps en temps lui prendre la main et la diriger pour que l'œuvre soit présentable. » Fin de citation. La manière dont Dieu agit par les dons est précisée de la façon suivante par un théologien sulpicien, Adolphe Tanqueray, dans son précis de théologie ascétique et mystique. Donc, citation du père Tanqueray. Mais Dieu agit par le moyen des dons, d'une façon supérieure au mode humain d'agir, s'il prend l'initiative. Avant que nous ayons eu le temps de réfléchir et de consulter les règles de la prudence, il nous envoie des instincts divins, des illuminations et des inspirations qui opèrent en nous sans délibération de notre part, mais non toutefois sans notre consentement. Fin de citation. Anselme Stolz donne un bon exemple de différence entre les vertus et les dons dans le cas d'une prise de décision difficile. Citation. La vertu surnaturelle de prudence, qui est l'une des quatre vertus cardinales avec la tempérance, la force d'âme et la justice, aura égard à toutes les circonstances, réfléchira, pèsera. Au contraire, le don de conseil illuminera tout en un instant. Alors pour donner un exemple précis de l'intervention soudaine de ce don, je citerai une anecdote qui concerne une amie qui est depuis longtemps missionnaire de la charité chez Mère Teresa. Un jour, elle était dans un aéroport espagnol avec Mère Teresa et elle devait initialement accompagner la mère jusqu'en Inde. Elles étaient sur le tarmac déjà et soudain la mère se retourne et dit à notre ami « Ah, c'est pas ça, non, tu dois aller à New York. » Et notre ami est parti à New York. Celui ou celle qui agit selon la vertu surnaturelle en se fiant à sa propre initiative, il est comme un rameur qui peine pour faire avancer la barque, tandis que celui ou celle qui est illuminé par un don de l'esprit est, je cite encore Stolz, comme un batelier qui tend la voile et qui, poussé par la force du vent, cède à une motion supérieure, s'avançant ainsi avec plus de rapidité. C'est une image souvent reprise de l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'âme. Ceci dit, il serait fort imprudent de vouloir s'adonner d'emblée, dans un zèle irréfléchi, à l'inspiration de l'Esprit Saint et à l'opération de ses dons. Il faut que l'exercice des dons aille de pair avec celui des vertus. Sinon, il est facile de tomber dans l'orgueil et l'illusion. Je m'arrête ici pour cette première partie de l'après-midi. Vous aurez reconnu le chant dont la musique avait été. J'avais mis la musique au début du premier enseignement. C'est évidemment le chant de Thérèse d'Avila, « En toi mon âme se repose sur Dieu seul ». Alors pour reprendre là où nous étions arrêtés tout à l'heure, eh bien, nous parlions des dons et des vertus, des dons d'Esprit Saint et des vertus. Alors, comme on sait, les théologiens scolastiques, comme d'autres, s'appuient en ce qui concerne les dons sur le texte d'Isaïe 11, 2, 3. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété et de crainte de Dieu. Du fait que, du point de vue thomiste, les dons parachèvent l'œuvre des vertus, les dons pourront se distribuer entre chacune des trois vertus théologales et des quatre vertus cardinales ou morales, comme on le voudra, que j'ai énoncé déjà précédemment. Par exemple, l'espérance est complétée par le don de crainte de Dieu. Le chrétien n'est pas effrayé par Dieu. Ce qu'il redoute, dit Thomas d'Aquin, c'est plutôt que par sa propre faiblesse, il ne se soustrait au divin secours. L'espérance et la crainte s'enchaînent donc intérieurement. Quant à la sagesse, elle s'exerce d'abord par l'action raisonnable de l'intelligence, mais jugée sainement des mêmes choses par une certaine connaturalité avec elle, c'est là le propre de la sagesse, en tant qu'elle est un don de l'Esprit Saint. C'est ce que dit Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. À la suite de la vertu de prudence vient le don de conseil. Il achève, par l'inspiration divine, ce que la réflexion humaine ne peut atteindre. Toujours selon Thomas. De mêmes analyses sont poursuivies à propos de la vertu de foi, qui est parachevée par les dons d'intelligence et de science, la vertu de justice qui est parachevée par le don de piété, ou la vertu de force qui est parachevée par le don de force. Ce dernier, dit saint Thomas d'Aquin, meut le courage de l'homme afin qu'il arrive au bout de toute œuvre commencée et qu'il échappe à tous les périls imminents. On peut mettre tous ces dons en relation avec la vie mystique, mais de toute façon, ils sont d'abord indispensables pour tous les fidèles, s'ils veulent assurer, ces fidèles, leur salut. Ceci dit, le don qu'il faut considérer comme le don propre et le principe immédiat de la vie mystique, c'est, selon le père Stolz, le don de sagesse. Le don de sagesse nous donne de goûter et de voir la vérité surnaturelle en Dieu même. Et ce don augmente avec la charité, qui communique une jouissance particulière parce qu'elle est livrée entièrement à l'amour. Néanmoins, comme il a déjà été dit pour Thomas comme pour Grégoire le Grand, l'expérience mystique n'est pas nécessairement liée à des phénomènes psychologiques extraordinaires. Nous souvenons de l'expression de saint Paul, déjà commentée, dans le Christ. On peut en tout état de cause affirmer que la perfection de la vie mystique consistera donc en une assimilation au Christ par l'Esprit Saint. De surcroît, il faut ajouter que la mystique chrétienne a toujours une dimension eschatologique. Je cite le père Stolz encore, « Vie et prière mystique, comme opération de l'Esprit à la fin des temps, sont bien les arts de l'accomplissement de toutes choses, le gage et les prémices de ce merveilleux échange et de cette union avec Dieu que doit nous apporter le dernier achèvement. » C'est ce que suggérait déjà le discours de Pierre au jour de Pentecôte, quand il montre que la prophétie de Joël, celle que l'on trouve dans le chapitre 3 de Joël au verset 1 et 2, cette prophétie sur l'effusion d'esprit, eh bien, elle est en train de se réaliser. Si l'on veut résumer la perspective thomiste que le père Stolz semble finalement plus ou moins adopter, on pourrait dire ceci. Au-dessus du réseau des tendances vertueuses de la vie chrétienne, il y a une vie immédiatement dirigée par l'Esprit Saint qui, par le don de sagesse, c'est-à-dire par la contemplation mystique, conduit à l'expérience et au goût des choses divines. Curieusement, pour nous qui fréquentons un peu les auteurs mystiques qui ont écrit depuis la réforme du Carmel jusqu'à nos jours, saint Thomas ne parle pas expressément ni dans l'ensemble de sa doctrine de la grâce, ni non plus dans les questions où il traite de la vie contemplative. Donc il ne parle pas trop de la connaissance immédiate de Dieu ou de phénomènes psychiques particuliers. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ignore ces choses-là. Mais pour lui, elles ne sont pas essentielles. Ce qui compte, pour lui, c'est la doctrine des dons. Celle-ci consiste surtout en ce qu'elle soustrait l'activité authentiquement chrétienne et l'essence de la perfection au rationnel, aimer l'une et l'autre sous l'influence immédiate du Saint-Esprit, qui conduit les âmes, spécialement par le don de sagesse, la charité étant parfaite, vers l'expérience suprarationnelle et mystique de la vérité. Mais alors vous me direz, à juste titre, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces phénomènes, de tous ces événements extraordinaires, ces extases, ces ravissements, ces lévitations, ces transverbérations, ces mariages spirituels, dont les ouvrages de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix et d'autres regorgent, et dont, je pense, Jean a dû vous parler pendant la première journée. Que dire de l'expérience, si souvent déroutante pour nous, d'une mystique comme sainte Mariam Bouhardi, dont Joachim Boufflet donne des échos très exhaustifs dans le gros livre qu'il a consacré récemment à sa vie, en 2022, Joachim Boufflé, Mariam, une sainte arabe pour le monde. Comment comprendre, par exemple, que le Seigneur ait permis qu'elle soit possédée par le démon pendant au moins 40 jours, tout en demeurant la grande sainte qu'elle a été? On ne peut pas nier ces faits, mais comme je le suggérais déjà, en parlant des stigmatisations, les mystiques eux-mêmes ne veulent pas s'y attacher exagérément, ou même parfois les passent totalement sous silence. Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que tous ces grands ou ces grandes mystiques ont toujours, en même temps, gardé les pieds solidement sur terre. Ils ont été très réalistes. Pour donner juste un exemple, on peut penser à ce moment de la vie de Thérèse d'Avila où l'une de ses sœurs, toute alarmée, vient la prévenir qu'un mur du monastère s'est écroulé inopinément. Thérèse lui répond tranquillement « Bien, ma sœur, le mur s'est écroulé, on va le rebâtir. » Pour sa part, Jean de la Croix s'efforçait d'être toujours joyeux, quoi qu'il arrive, avec ses frères. Et il se souciait de faire de la bonne cuisine pour eux. Mère Teresa, on le sait aussi, ne rechignait jamais devant les tâches les plus rebutantes, et même elle les recherchait presque, pour soulager les pauvres qu'elle recueillait sur son chemin. Plus important encore, comme le dit le père Stolz, qui dit mystique, dit participation à la croix du Christ. La vie de la chair de péché, opposée à la vie de la grâce, doit mourir par la cèse. Il y a encore là une grande différence avec d'autres mystiques que l'on peut appeler de type gnostique, qui en un sens éliminent le péché. Leurs adeptes pratiquent aussi la cèse, mais dans le sens d'un mépris total du corps. Le corps, pour eux, est assimilé au mal. Pour le chrétien, l'incarnation du Fils de Dieu est l'élément décisif d'appréciation de la valeur de la vie corporelle, dit à juste titre le père Stolz. Au lieu de chercher à se libérer de son corps, l'ascète chrétien essaie de comprendre pourquoi le Fils de Dieu a voulu assumer la chair de l'homme et quels sont les devoirs qui en découlent pour lui quant à sa vie corporelle. Par suite, notre vie corporelle doit être orientée d'après les étapes successives du corps du Christ, depuis son incarnation jusqu'à son ascension. L'ascèse chrétienne, pratiquée de manière parfois héroïque par les mystiques, poursuit la mort de l'homme corrompu par le péché originel pour faire surgir un nouvel homme dans le Christ. L'ascèse n'est pas, pour le chrétien, seulement un prélude à la vie mystique, mais un élément essentiel de cette vie. C'est la mort progressive de la vie pécheresse du corps. Ascèse et mystique sont donc les deux facteurs d'un seul et même processus surnaturel. C'est le sens profond de ce qu'est l'Église, dit le père Stolz en citant le cardinal Journet dans son livre « Les destinées du royaume de Dieu ». En tant qu'elle est le corps du Christ, l'Église, elle vit de sa vie. Elle est dans ce monde temporel le corps crucifié du Christ. La grâce qu'elle donne est la grâce du crucifié, grâce qui ennoblit et sanctifie la souffrance, mais ne la supprime pas. » Fin de citation. Le père Stolz observe encore qu'au degré les plus élevés de la vie mystique, où la mort réduit la chair du péché, les extases et les visions n'ont presque plus lieu. Un cas très particulier d'ailleurs est celui des martyrs. Le martyr, qui se trouve au seuil de l'au-delà, voit déjà dans son supplice la gloire de l'autre monde. Il devient ainsi le témoin de la gloire du Seigneur. Et c'est précisément à ce titre qu'il est considéré par l'Église comme le mystique par excellence. Il suffit de relire dans les Actes chapitre 7 le martyr de saint Étienne. Je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Il semble d'ailleurs qu'il y a, c'est ce que dit le père Stolz, moi j'en sais rien, Jean-Claude pourra confirmer, dans la chapelle d'Adam, au sein de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, une inscription qui dit ceci « Le lieu crâne est devenu paradis », ce qui veut dire que seule la voie de la croix aboutit au paradis. Troisième point dans cette première partie de l'après-midi, longue première partie, charisme des mystiques et charisme des communautés chrétiennes. Avant d'aborder la deuxième et dernière partie, il convient de s'attarder un instant sur une différence dont le père Stolz ne pouvait pas tenir compte puisqu'il est décédé en 1942 au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1967 seulement, un mouvement de renouveau charismatique a surgi au sein de l'Église catholique, mouvement qui jusque-là ne caractérisait depuis le début du XXe siècle que les églises évangéliques pentecôtistes. Répondant de manière surprenante à la prière du pape Saint Jean XXIII, qui avait imploré en ouvrant le Concile Vatican II une nouvelle Pentecôte sur l'Église, de nombreux groupes de prière ou communautés nouvelles, on le sait, se sont mis ou mises à exercer les charismes décrits par Paul au chapitre 12, bien sûr, de la première lettre aux Corinthiens. Il ne faudrait pas néanmoins assimiler ces charismes, parfois très spectaculaires, tels de puissants ministères de guérison, aux charismes propres aux mystiques à travers les siècles. Ceux-ci, les charismes des mystiques, manifestent la sainteté des personnes, tandis que les différents charismes exercés dans le renouveau, sont fondamentalement destinés à l'édification des fidèles et plus encore à l'évangélisation. Alors bien sûr, il vaut mieux que ceux ou celles qui les exercent mènent une vie sainte, exemplaire, mais elle n'est pas nécessairement mystique au sens où on l'a entendu tout au long de ces 3 jours. Alors maintenant, j'arrive à la deuxième partie, beaucoup plus courte, de cet après-midi, l'appel du Père à entrer dans son royaume. Comme on l'a déjà indiqué, la grâce du Christ dépasse la grâce du premier homme, et c'est pourquoi l'ultime perfection du racheté dépasse l'état paradisiaque primitif. En effet, au-delà du paradis, le chrétien est amené dans le royaume du Père. C'est le titre du chapitre 10 du Père Stolz. La perfection finale est donc appelée, avec raison par les mystiques, royaume du Père ou royaume des cieux. Comme le dit Marsili dans un ouvrage intitulé « Giovanni Cassiano ed Evagrio Pontico ». Dans cet état, le justifié entre en relation intime avec les personnes divines et singulièrement avec le Père. Anselm Stolz reproduit le témoignage donné par un mystique allemand du XXe siècle, Jérôme Jägen. Voilà ce que dit ce mystique. « Le Saint-Esprit prépare l'âme à son union avec le Sauveur. Il la rapproche mystiquement de plus en plus de lui. Le médiateur, en même temps que le paranymphe près du Père Céleste, c'est le Fils de Dieu. » Au cours de la deuxième période, il relève peu à peu sa fiancée. Il la porte spirituellement toujours plus haut, par-dessus tout l'or et tous les biens de ce monde. Et il l'amène au Père Céleste pour habiter avec elle, chez lui, dès ici-bas. Et le même Jérôme Jägen décrit ensuite le rôle de chacune des personnes dans l'œuvre unifiante. Au commencement de la vie mystique, c'est d'abord avec la personne du Saint-Esprit que l'âme communique. Celui-ci la conduit au Sauveur, puis le Sauveur au Père Céleste. Fin de citation. Elle cherche à rencontrer le regard paternel de Dieu et à plonger plus profondément, avec une innocence d'enfant, son regard dans le sien. À partir de ce moment, elle communiquera avec lui aussi aisément qu'elle a communiqué jusque-là avec le Sauveur. Comme Thérèse d'Avila l'annonçait dans les 7e demeures citées précédemment, le plus haut degré de l'union mystique est une vision de la Trinité et une manifestation du Verbe pour préparer et achever ce qu'on appelle le mariage mystique. C'est ce que dit un auteur allemand, Scaramelli, dans une introduction à la théologie mystique. Il faut nécessairement que le mystique connaisse les 3 personnes divines, car celui qui ne connaît pas Dieu en soi tel qu'il est, n'est pas véritablement divinisé. Donc le mystique doit participer à ce qu'on appelle, d'un mot un peu compliqué, en grec la périchorèse, ou en latin, ou en français, la circumincession de trois personnes, la circulation d'amour entre elles. Dieu n'est pas une abstraction sans vie, il est la vie même, un courant vital qui passe de la première personne à la deuxième, et les deux s'écoulent dans le Saint-Esprit. Ce courant doit se manifester dans la participation surnaturelle à la vie divine. À ce compte, il peut y avoir une expérience vraiment mystique de l'Eucharistie qui était déjà suggérée plus haut. En participant à l'Eucharistie, le fidèle est ravi à lui-même et au monde. Il est conduit par le Fils dans les lieux angéliques jusqu'au Père. Et en s'attachant au Fils, il peut s'approcher du Père, ayant sur les lèvres le mot Père. Divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui in cielis, etc. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, selon son commandement, nous allons dire notre Père. L'assimilation au Fils et l'union intime avec lui, accomplie sacramentellement dans l'Eucharistie, place le fidèle dans le Christ, devant le Père. Le mystique ne peut donc se contenter d'essayer d'appréhender le divin sans se soucier de la distinction des trois personnes, ou bien passer outre. Tout cela détruirait la mystique trinitaire, et partant la seule mystique authentique, la seule réalisable, dit encore Anselm Stolz. Pour en revenir à l'Eucharistie dont il était question à l'instant, la mystique chrétienne ne peut être que sacramentelle. Celui qui parvient à faire pénétrer toute sa vie par l'Eucharistie, à se maintenir dans le Christ devant le Père et à expérimenter ce fait, est un mystique, un chrétien accompli. Il marche aussi en présence de Dieu, ce qui veut moins dire penser toujours à Dieu que, ontologiquement, être sans cesse dans le Christ devant le Père. Ce qui veut aussi dire qu'il prie sans cesse. C'est le cas tant qu'on est uni au Christ qui se tient éternellement devant le Père, intercédant en notre faveur. Une attitude de ce genre peut avoir dans certaines âmes des effets psychologiques, comme les extases et les visions. Mais sans aucun doute, l'essence de la vie mystique doit être cherchée ailleurs. Elle est de sa nature cachée, soustraite au regard, jusqu'au jour où tout étant accompli, nous tous, unis dans le Christ, nous nous approcherons manifestement avec lui du Père, et où le Christ, médiateur, ramènera tout au Père, en présence duquel notre être se répandra alors en louange, en adoration et en action de grâce durant toute l'éternité. Conclusion, cette dernière citation était en elle-même une conclusion. Mais si l'on voulait ajouter quelque chose, on pourrait considérer encore deux points. Le premier, c'est le regard des saints. Depuis plus de 150 ans maintenant, nous avons des photographies de certains grands saints dont presque tous peuvent être qualifiés de mystiques. Si en effet on regarde le visage d'une Thérèse de l'Enfant Jésus, d'un Charles de Jésus, d'un Maximilien Kolbe, d'une Élisabeth de la Trinité, de Mère Teresa, on ne peut qu'être fasciné par leur regard, un regard d'enfant, d'innocence, qui est une sorte de perception du ciel. Personnellement, j'ai le souvenir d'un pareil regard chez un ami, moine cistercien décédé en 2002, le frère Grégoire. Après 18 années de prison pour divers délits importants, il s'était converti et était entré comme moine à l'abbaye Sainte-Marie du Désert près de Toulouse. On trouve sa vie dans un livre intitulé C'était un larron, publié en 2002 par Robert Masson. Très malade à la fin de sa vie, j'aurais bien souhaité le revoir lors d'une semaine que je passais au monastère. Mais c'est au moment où je chargeais ma valise dans ma voiture qu'une porte ouvrant sur la clôture s'est entrebâillée et que le frère qui s'occupait de l'infirmerie, le frère Robert, m'a fait signe de venir saluer Grégoire une dernière fois. Je n'oublierai jamais cet instant. Ce regard d'enfant, plongé dans le mien, qui, après m'avoir demandé des nouvelles de la famille, ses seuls mots répétés trois fois, « Au revoir, Jean-Louis ». Le deuxième point, c'est que pour les mystiques catholiques, la Mère de Dieu est le plus sûr moyen de rejoindre le Christ et la Trinité. Pour finir vraiment, je vous propose, en conclusion finale, cette magnifique prière de Marthe Robin à Marie. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, Apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour, emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité. Amen.